Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une, Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, où un calme précaire semble revenu après d'intenses combats entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise. Le comité international de la Croix-Rouge en RDC dit avoir traité 1000 blessés. Nous entendrons son chef de délégation. Vous en parliez, Juan, le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais. Paul Biya, le président, l'a reçu hier. Rapport rendu possible par la déclassification de milliers de documents. Au sommaire également, le difficile retour des déplacés du nord de Gaza. Ils sont 376 000 à avoir regagné la région, selon les Nations Unies. Une zone dévastée par 15 mois d'intenses bombardements. Grosse soirée foot ce soir. C'est la dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. 18 matchs au programme et notamment Brest-Real Madrid. Les Bretons ravis d'accueillir les Espagnols 15 fois vainqueurs de la compétition. Retour à un calme relatif cette nuit à Goma, en République démocratique du Congo. Après d'intenses combats ces derniers jours entre les opposants du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise, le bilan humain qui commence à peine à se dessiner pourrait être lourd. Plus de 100 morts et près de 1000 blessés ont été conduits dans les hôpitaux de la ville, selon un décompte établi par l'agence France Presse. François Morillon, chef de délégation du comité international de la Croix-Rouge en RDC.
Depuis le début du mois, nous avons traité près de 1000 blessés par arme, à la fois par balles et également par engins explosifs. Ce qui est particulièrement alarmant, ce sont les derniers chiffres. Par exemple, hier et avant-hier, nous avons reçu 148 blessés, dont 136 civils, et ce matin, encore 110 blessés. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave et, comme on peut le voir, coûte énormément aux civils dans une zone qui est très urbanisée, très densément peuplée, et donc ce type d'armement utilisé en ville représente un danger manifeste pour les populations. Nous avons d'ailleurs rappelé à l'ensemble des parties de faire preuve de retenue et de tout faire pour protéger les populations civiles. Pour ce simple mois, on aura eu dans un seul hôpital, nous en soutenons plusieurs, autant de blessés que pour toute l'année 2023. Donc on a atteint un niveau d'intensité tout à fait extraordinaire.
François Morillon, qui était le grand invité international de RFI ce matin, entretien avec Arnaud Pontus, à retrouver en intégralité sur RFI.fr et l'application RFI Pure Radio. Un travail de recherche très remarquable et de conciliation mémorielle d'une grande portée symbolique. Les mots, hier, de Paul Biya, le président camerounais qui a reçu à Yaoundé le rapport d'une commission de chercheurs français et camerounais sur la colonisation et l'indépendance du pays. Il incite notamment Emmanuel Macron à reconnaître officiellement le rôle et la responsabilité de la France dans, je cite, cette guerre de décolonisation, rapport de 1000 pages rendu possible grâce à la déclassification de milliers de documents par la France. Les précisions de Florence Maurice.
2300 documents déclassifiés par la France, issus des archives de la Sûreté coloniale et du SDEC, les services de renseignement. Des facsimilés de ces documents devraient être disponibles à l'avenir dans un centre d'archives à Paris, indique le rapport, dans un lieu qui reste à déterminer. Un bémol, côté Cameroun, les chercheurs n'ont pas pu accéder aux archives nationales pour la période après 1964 donc. Ils ont en revanche bénéficié d'une dizaine de dons d'archives privées, comme celle du général Briand, commandant de l'armée française en 1960, ou de l'homme politique camerounais Moïse Satouglé, un transfuge du parti indépendantiste et fondateur d'un parti dit de collaboration. Pour le reste, la commission s'est largement appuyée sur des sources déjà communicables et en partie exploitées par le passé. Si les grandes lignes de cette guerre de décolonisation avaient déjà été établies par des historiens, les auteurs de ce rapport se sont attachés à combler certaines lacunes et espèrent surtout atténuer un vide mémoriel. Car malgré l'existence de plusieurs ouvrages reconnus sur cette guerre, côté français, constatent les auteurs du rapport, la guerre du Cameroun est une terra incognita des mémoires sur le passé colonial.
Florence Maurice. Il est 11h04 à Gaza, où il faut tout faire pour que le Hamas ne gouverne plus jamais. La déclaration hier de Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain. Dans l'enclave, au moins 376 000 Palestiniens sont rentrés depuis lundi dans le nord, selon les Nations Unies, région ravagée par 15 mois d'intenses bombardements et où tout manque. Pierre-Olivier.
Ils sont des centaines de milliers à regagner le nord de l'enclave palestinienne et leur domicile sur place. Pourtant, c'est un paysage de désolation. Clémence Laguarda est responsable des opérations à Gaza pour l'ONG Oxfam.
On parle de 42 millions de tonnes de gravats qui doivent être enlevés. Pour ça, il faut un équipement spécialisé. Il y a aussi un risque très important de retrouver des munitions qui n'ont pas explosé, des restes d'explosifs.
Au milieu des ruines, la gestion de l'eau potable est aussi particulièrement délicate.
Pour l'instant, il y a quelques points d'eau qui opèrent et les ONG essayent de mettre en place des camions citernes et des points de distribution un peu partout pour que les gens aient accès à de l'eau potable. Mais clairement, le réseau à l'heure actuelle ne fonctionne pas et a été largement détruit.
Malgré tout, l'aide humanitaire parvient à être acheminée. Clémence Laguarda.
Depuis le cessez-le-feu, le nombre de camions qui entrent dans le nord a augmenté. On est à environ 300 par jour. Par contre, contrairement au sud, l'aide qui rentre dans le nord est vraiment de l'aide d'urgence. Mais pour l'instant, tout ce qui est matériel spécialisé et qui justement peut permettre la réhabilitation des réseaux d'eau, etc., ne peut pas encore rentrer.
Car l'autre défi de taille est le retour de l'électricité, alors que près de 80% des installations ont été détruites.
Pierre Olivier. 3 mois de manifestation contre la corruption après l'effondrement du toit d'une gare qui a fait 15 morts, démission surprise du Premier ministre hier. La Serbie fait face à l'un des plus importants mouvements de contestation de son histoire et la pression ne retombe pas. Laurent Rouy.
La démission surprise du Premier ministre serbe Milos Vucevic montre que la protestation étudiante contre la corruption peut porter ses fruits. Pourtant, cet étudiant ne veut pas interrompre les blocages universitaires car les 4 revendications du mouvement ne sont pas exaucées.
La démission du Premier ministre me semble être une tentative de faire baisser la tension alors qu'il ravive cette tension chaque jour. Les étudiants ne cesseront pas leur mouvement tant que toutes les revendications ne seront pas acceptées.
L'opposition veut saisir l'opportunité de la démission du Premier ministre pour former un nouveau parlement, comme l'explique Miroslav Aleksić, un leader de l'opposition.
La seule solution est de nommer un gouvernement de transition dont le premier objectif sera de remplir toutes les revendications des étudiants et ensuite d'organiser des élections libres et transparentes.
Mais pour le président Aleksandar Vučić, pas question d'accéder aux revendications de l'opposition. La constitution lui donne le choix et il compte bien garder cet avantage.
J'ai vu qu'il existe des génies qui affirment que les assemblées étudiantes doivent désigner le futur gouvernement. Mais il faut maintenant décider ou de former un nouveau gouvernement ou d'organiser de nouvelles élections. Personnellement, je suis ouvert aux deux options.
Le bras de fer entre le pouvoir et les protestataires continue donc sans que l'on puisse encore voir la fin de la crise qui paralyse la Serbie. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
On termine ce journal avec du foot et la dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. L'une des grosses affiches ce soir, c'est Brest-Real Madrid. Car si les merengués ont déjà remporté 15 fois le titre en Bretagne, on parle déjà du match du siècle. Thomas de Saint-Léger.
Pas de privilège à Guingamp. Pour leur dernier entraînement, les rois d'Europe sont accueillis comme les autres, à la Bretonne, sous le crachin et les bourrasques de vent. Thibaut Courtois, le gardien de but belge du Real Madrid.
Non, on n'a pas de problème avec le vent ou la pluie. Tu vois, en Espagne, il y a aussi des villes où il fait froid, où il peut pleuvoir. Pour moi, c'est toujours charmant de jouer contre des autres équipes.
Comprendre des petites équipes de petites villes qui, elles aussi, trouvent un charme certain au Grand Real. Sa venue à Guingamp est un événement pour cette bourgade de 7000 habitants.
Ça parle que de ça, clairement.
Benjamin est le patron du Lapin Rouge, un bar voisin du stade de Roudourou.
Non, puis tout le monde est content. Voilà, Mbappé, tout ça. Même à Rennes ou Nantes, il n'y a jamais eu un club comme Madrid, quoi. Ça, c'est quand même le match du siècle pour Guingamp.
Le match du siècle aussi pour les joueurs de Brest face à des adversaires qu'ils devront oublier d'admirer pendant au moins 90 minutes, l'entraîneur Éric Roy.
Tous les joueurs, ils connaissent cette équipe parce que c'est une équipe que l'on voit beaucoup à la télévision et il y en a beaucoup, je pense, qui en plus dans l'effectif, qui sont pas des supporters, mais en tous les cas, qui aiment cette équipe, quoi. Donc, non, je crois qu'il faudra surtout de pas subir et de pas être spectateur, d'être réellement acteur de ce match.
En se rappelant aussi que pour l'instant, au classement de la Ligue des Champions, le petit poussé breton est un point devant l'ogre espagnol. Thomas de Saint-Léger, Guingamp, RFI.
Brest, Real Madrid, c'est à 20h, temps universel, et ce sera en direct sur RFI, soirée spéciale. On suivra également le choc Stuttgart-PSG. Rendez-vous à 19h40, temps universel. En attendant, il est bientôt 10h10 à Paris, 9h10 en temps universel. On vous retrouve, Caroline Paré, avec Priorité Santé.
Merci beaucoup, Alban Leprince. Et on retrouve toutes ces infos, bien sûr, sur notre site internet, rfi.fr.